Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crack,
des...
Bang,
des...
Blanc,
et des...
Zitch, bam, pow, blanc, oui.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio B. Toujours sur Pic Bulle. L'aiguille qui pique des bulles et qui nous fait rêver. Alors, quand on m'a donné le thème de l'émission d'aujourd'hui, j'ai fantasmé à Lille, la grande braderie, les moules frites à la tonne, le rêve du Nord, puisqu'on m'a dit non, c'est Lille, L'ILLE. Ah, Lille, l'île au trésor, l'île sur les eaux, l'île du rêve, un terrain privilégié pour les navigateurs qui vont de l'une à l'autre, sans oublier les îles mythiques et imaginaires. Donc, déployons les voiles et prenons le large. Bon voyage, je suis votre skipper pardon, pour aujourd'hui. Jean-Marc, Anne, je te souhaite une bonne journée, je t'embrasse. Quand même. Hein. Alors pourquoi ? Parce que là, on va à Venise. La belle Venise. Avec Corto Maltese. Alors, j'ai fait exprès de prendre un Corto Maltese qui est assez ancien, qui s'appelle Fable de Venise. Par ce cher Hugo Pratt, qui a disparu maintenant. Et c'est une histoire un petit peu extraordinaire. Puisque Corto Maltese, c'est quelqu'un qui va de ville en ville, enfin de port en port, et toujours à la recherche de quelque chose. Et là, c'est une histoire assez compliquée, où il va chercher un trésor. Et donc, il va se promener dans Venise. Alors, il prend plein de risques. Il a beaucoup de problèmes, ouais. Parce que tout le monde lui court après. Donc ça commence par les maçons, les francs-maçons. Donc je pense que tout le monde comprend ce que sont les francs-maçons. Mais il va se frotter ensuite à des... j'allais dire des mafieux. Non, c'est l'ambiance simplement On est à l'époque de Mussolini. Donc, il rencontre des gens qui sont assez dangereux. Il arrive toujours à passer à travers. Il y a des choses assez extraordinaires, c'est qu'on a l'impression de voyager dans le temps. Il rencontre une femme qui est magnifique, très très belle, mais qui apparemment est la réincarnation d'une déesse égyptienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, je dirais presque à toutes les pages, ça saute. Parce qu'on est toujours entre la réalité et puis l'imaginaire de Corto Maltese. On ne sait jamais vraiment où il est. Donc il n'arrête pas de se recadrer systématiquement. Et ce qui est extraordinaire dans cet album, c'est la vue de Venise. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que dans l'interpage, juste après la couverture, on a tous les voyages qu'a fait Corto Maltese. Et donc on a tous les pays qu'il a visités, etc. Et Venise, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Et là, il vient spécialement pour chercher un ossement qui doit mener à un trésor. Donc on va voir tout son parcours. Alors on va se rendre compte aussi que c'est quelqu'un de très fort et très courageux, parce que il n'arrête pas de se casser la figure. Et puis il se redresse toujours et il rencontre des gens qui sont assez dangereux quand même. Il s'en sort toujours assez bien. Alors, l'intérêt, c'est qu'on ait une vision de Venise qui est superbe. J'ai eu la chance d'aller à Venise. Alors, dans l'album, ce qui est très bien, c'est qu'on a les vues de Venise, mais on n'a pas les odeurs. Parce que Venise, c'est quand même une ville qui n'est pas très propre, à cause des canaux. Et donc, on va sauter d'aventure en aventure. Et il va rencontrer une secte. Ensuite, il y a aussi des policiers corrompus qui essayent de l'attraper. Il s'en sort toujours. Et puis, une femme fatale, là, qui est vraiment très belle, effectivement. Et qui va le promener, puisque c'est une réincarnation d'une princesse égyptienne. Ce qui n'est pas forcément évident. Hypatia, philosophe néoplaticienne, directrice de l'école d'Alexandrie d'Égypte, d'une beauté rare et d'un caractère pur sans défaut. C'est une citation. Et la petite dame lui dit, je vous remercie. C'est vrai qu'elle est très belle. Donc j'étais surpris parce que moi, j'ai connu Corto Maltese dans Pif Gadget. Et dans Pif Gadget, Corto Maltese, c'était en noir et blanc. Et là, c'est des couleurs qui sont très belles. Beaucoup de pastels. Ou d'aquarelles, des choses comme ça. Et au début, ça surprend un petit peu, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que ça met en relief les personnages qui, au départ, sont noirs et blancs. Et donc, en fait, Corto Maltese va trouver ce qu'il cherche. Il va le trouver presque par hasard à la fin. Parce qu'il a fait tout un parcours, ça m'a fait un petit peu penser au nom de la rose, où il y a plein de codes, il y a plein de choses cachées. Et donc à la fin, il trouve ce qu'il voulait, la clavicule de Salomon. Ah, qu'est-ce que c'est que la clavicule de Salomon? Salomon, c'est un apôtre. Et en fait, la clavicule de Salomon était transformée en diamant. Et comme Cortot, il est très gentil, mais en fait, c'est quand même un voleur, c'est un grand bandit. Donc, il court toujours après les choses qui l'intéressent. Et là, il va rencontrer, autour de son voyage, des gens assez bizarres et assez intéressants. Et il va retrouver certains ennemis qu'il avait connus avant. Et à un moment donné, je suis sur une planche où ils sont tous là. Et pour lui, c'est assez compliqué parce que il y a des visages qu'il reconnaît, mais qui ont changé d'identité ou de direction. Donc c'est. Enfin, pour moi, c'est un bouquin qui est superbe, très très beau. Mais il retrouve un Anglais qui est plus ou moins détective, mais qui n'est pas très crédible. Il retrouve une dame qui s'appelle Jambe d'Acier. Parce qu'elle a une prothèse en acier. Et surtout, il retrouve quelqu'un qu'il a croisé plusieurs fois, qui s'appelle Raspoutine, dans d'autres albums. Et Raspoutine, il dit « Non, non, mais je ne suis pas Raspoutine, je suis Saoud Kaola, et pas Raspoutine. » Ce qui est complètement faux. Et il y a plein de références... au conte du Sud. C'est-à-dire que en fait, quand il frotte une lampe, et c'est Raspoutine qui en sort, alors qu'il l'attendait comme la lampe de... Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça part dans tous les sens. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cet album, parce que c'est vraiment presque du délire pur. Parce que là, la tête, d'abord il y a des problèmes après, mais la tête de Cortot, elle explose, quoi. Il part dans tous les sens et on ne sait jamais où est le réel et où est le rêve. Donc... Ce que je vous dis, c'est que si vous aimez, si vous connaissez Venise, c'est fabuleux parce que les dessins sont extraordinaires. Je parle surtout d'architecture. Parce que si on connaît Venise, on se promène à travers l'album dans tous les sites de Venise qui sont fabuleux. Bah, on voit le pont des Soupirs, on voit le Rialto, on voit toutes ces choses-là qui sont assez fascinantes. Et la position de Cortot à Venise, c'est assez particulier. Je suis en train de regarder une page où effectivement on voit tous les palais vénitiens, tout ça, qui sont très très beaux. Et encore une fois, très mal entretenu, parce que souvent c'est des capis. Enfin, et j'ai choisi particulièrement l'album d'Hugo Pratt, parce que Hugo Pratt est malheureusement nous a quittés. Et Corto Maltese a été repris par d'autres auteurs. Qui, moi, me paraissait moins intéressant. Donc, je vous conseille à nouveau Cortot Maltese, Fable, c'est pas le premier, hein, c'est Fable de Venise. C'est publié chez Casterman et c'est magnifique, bel album. Voilà, c'était un message dans une bouteille, donc jeté à la mer, forcément, par police. Alors, ce qui nous amène à un livre qui s'appelle « L'île aux remords ». Remords, ça ne veut pas dire deux fois mort. Hein. C'est, ça dépend comment on l'écrit. Et c'est chez Grand Angle, et c'est de Kella Guyot et de Maurice pour les dessins. Et en fait, c'est une histoire complexe, je dirais triple, puisque c'est l'histoire à travers un personnage qui traverse plusieurs époques. Et au début, il est amoureux, il devrait se marier avec une jeune femme. Ça se passe dans les Cévennes, pardon, j'aurais dû le préciser. Et ensuite, il s'engage dans la marine et il part comme... il est médecin. Il va soigner des gens au bagne, parce qu'on parle beaucoup de bagne dans ce livre. Donc le bagne, il est en Guyane, et c'est très dur. Et lui, il va passer 25 ans de sa vie là-bas, au bagne, à soigner les gens, etc. Et après, il revient comme s'il était le fils prodigue. Et en fait, c'est pas, il est reçu par son père. Donc, il a perdu sa copine qui s'est mariée entre-temps. Et son père va se trouver, bizarrement... Enfin, il y a une grosse inondation en 1958 dans les Cévennes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'île. Son père va se retrouver carrément dans une île. Et ils ont des rapports très conflictuels. Et donc, il ne peut pas reconstruire sa vie. Donc, il est obligé de vivre avec son père. Et c'est pour ça qu'il y a trois histoires dans le même truc. Parce qu'en même temps, la petite, qui était son amoureuse au départ... Elle, donc, elle s'est mariée, etc. Donc, elle l'a oublié. Enfin, elle l'a évacué, on va dire ça comme ça. Et donc, dans ce bouquin, tout le monde est perdu. Sauf le vieux, le patriarche, qui, lui, il ne veut pas bouger de sa maison, etc. Même s'il est entouré d'eau et tout. Après, on va regarder un petit peu les dessins. Alors... Le bouquin se découpe en chapitres. Voilà. par rapport, c'est le rythme de la vie, en fait, du personnage principal. Alors, on a plusieurs qualificatifs à lui donner, parce que c'est quelqu'un d'assez sympathique, d'assez humain, parce qu'il est quand même allé en Guyane pour sauver des bagnards qui étaient malades. Il a vu des trucs abominables. Et quand il revient, il n'a pas franchement le retour qu'il attendait. Mais il y a quand même la sagesse d'un père qui a l'air brut, qui a l'air mauvais, mais qui le soutient quand même complètement. Après, il y a plein de reminiscences de son passé quand il était adolescent et qu'il allait voir sa petite copine. Donc il y a des très belles planches de retour sur, j'allais dire sur le futur, non mais je me trompe, sur le passé, qui sont assez belles. On a presque l'impression que par moment, quand il est avec son père, qu'on est dans une pub pour du fromage de chèvre ou de brebis, un truc comme ça. Mais son père lui fait pas de cadeau. Et puis, on revient souvent. Alors, c'est un livre qui est assez difficile à lire parce que ça saute toujours du présent au passé. Du présent au passé. Donc il y a des flashbacks de partout. Et surtout tout ce qu'a vu le médecin quand il était médecin dans les bagnes. Et au niveau du caractère du personnage, c'est intéressant parce que on a à l'époque, on faisait beaucoup travailler les bagnards. Et donc lui, il est chargé de les soigner. Et il n'est pas tellement considéré parce que par rapport à l'administration militaire, c'est simplement, c'est quoi un infirmier, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur. Donc il va quand même rester 25 ans là-bas, soigner beaucoup de gens. Et après, c'est justement quand il retourne voir son père, c'est le retour vers les racines. Et on parle beaucoup à ce moment-là de la montagne, etc. La montagne et malheureusement la montée des eaux. Et c'est pour ça que je l'ai choisi par rapport au thème de l'île. C'est que son père ne veut pas voir les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être sous l'eau ? Sous l'eau, c'est parce que c'est comme le bagne. Hein. Enfin, l'image, elle est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on est coincé, on est soumis, on est fermé. Son père, il est enfermé dans sa maison, il ne veut pas en sortir. Il ne veut pas en sortir parce que c'est sa maison. Et il ne veut pas reconnaître les choses. Et le bagne, c'est un petit peu pareil. C'est le parallèle qui est fait un petit peu dans le bouquin. Et donc il y a deux visions du monde. Enfin, il y en a trois avec la petite avant. Et à la fin de l'album, on a une rétrospective des bagnes tels qu'ils ont existé, qui est assez intéressante. Et on voit qu'il y avait deux sortes de bagnards. Il y avait les bagnards qui étaient des forçats qu'on faisait travailler, etc. Et à partir d'un certain temps, comme on l'a vu dans Papillon, par exemple, le film ou dans le bouquin, on a des bagnards qu'on laisse vivre sur l'île parce qu'on ne veut pas qu'ils rentrent chez eux, en France, en l'occurrence. Et donc, bah, ils font de la culture, ils s'occupent. Mais ils n'ont pas le droit de rentrer chez nous, en France. Voilà. Et la fin du bouquin, c'est quand même assez intéressant de voir l'histoire du bagne, parce qu'on ne connaît pas trop ça. Voilà, donc ça s'appelle l'île aux remords. Alors pourquoi les remords? Parce que tout simplement, les trois personnages principaux, la petite jeune fille et je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est pas grave. Elle a des remords parce qu'elle a laissé partir son fiancé pour soigner dans les bagnes. Le père, il a des remords parce que sa femme est morte, son fils est parti, et quand son fils revient, il ne le reconnaît plus. Enfin, c'est quelqu'un qui a été transformé justement par le bagne. Voilà. C'est très bien dessiné, assez agréable à lire. Et donc, ça nous fait aussi poser des questions sur la colonisation et tout ce qu'on a pu faire dans le temps, en tant que France. Voilà.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Harry Nilsson, c'est trop beau. C'était la musique de Macadam Cowboy et ça s'appelle Everybody is Talking. Tout le monde parle. Voilà. Ce qui me permet d'arriver sur une île qui s'appelle Manhattan. Manhattan, New York, c'est l'île du centre. Voilà. Et c'est un livre de Giacomo Bevilacqua. Je ne vais pas vous les plaire parce que c'est trop compliqué. Et ça s'appelle Manhattan Murmure. Alors, pourquoi Manhattan? Parce que Manhattan, c'est quand même un endroit extraordinaire. Et c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu un mythe, la ville de New York et Manhattan. Et là, donc, on a un personnage qui est un petit peu problématique, qui a des problèmes dans sa petite tête. Et en fait, son problème, c'est qu'il calcule tout. Et on calcule tout, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il faut qu'il le mette en forme mathématique, tout le temps. Et en plus, c'est un photographe. Ce qui va bien ensemble, puisque dans la photographie, il y a un déclic, il y a un calcul, il y a un réglage, etc. Et donc, je lis un extrait. Là. À cet instant, Sam comptait ses battants de cœur, 4 à 4, car ils étaient parfaitement synchrones avec le rythme de son monde. C'est bon, il est un petit peu obsessionnel, quoi, quelque part. Alors, par contre, il fait plein de rencontres. J'ai oublié de dire que c'était italien au départ. Hein. Et en plus, ce qui est extraordinaire, donc il compte tout. Donc dans le livre, on a des calendriers, tout le temps, où il coche des choses. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est la façon... J'ai fait... c'est pas grave. C'est la façon dont il dessine New York. Si vous avez eu la chance d'aller à New York, c'est incroyable. Quoi. Les buildings de New York dessinés par Betty Vaca, c'est absolument extraordinaire. Quoi. C'est Central Park, vous pouvez voir, vous pouvez visiter New York avec ce livre. C'est très très beau. En plus, il y a des éclatés de pages. Auquel ça tombe pas, c'est-à-dire qu'on a des doubles pages, après on a des pages avec presque rien, après on a des pages avec la vue de l'objectif, et qui sont un tiers de page à peu près. En plus, il y a tout il a tout compris de New York. Il y a tout le cérémonial de boire du café en marchant, etc. Tout ce qui est. Et c'est très très bien. J'ai eu la chance d'aller à New York, il a tout compris à New York. Et bon, il a une drôle de tête par contre. Ouais. Si on regarde le côté physique de la chose, c'est assez bizarre. Il a beaucoup d'angoisse hein, tout le temps. Il faut qu'il calcule. Parce qu'autrement, s'il ne calcule pas, il ne se repère pas. Donc il n'est pas bien, quoi. Il y a des pages extraordinaires avec des vues. Si vous avez fait de la 3D, ou au moins de la perspective, il y a des vues qui sont absolument superbes. Et on reconnaît très bien New York quand on voit les bâtiments qui sont dessinés. Je m'excuse si j'insiste un petit peu sur le dessin, mais c'est trop fort, comme on dit. Voilà. Je vais parler comme les gens, les enfants, comme les jeunes. Et non, on peut se balader. Là, on se balade dans New York. Parce qu'il y a le métro, il y a les snacks, il y a toute la mythologie de New York, il y a le monde, il y a la foule. Alors, le seul truc que je ne comprends pas, c'est que le personnage principal... Il a une tête, on dirait qu'il a un gant sur la tête, tellement ses cheveux sont bizarroïdes. Autrement, tout est magnifique. Avec des changements de couleurs suivant l'endroit où on se trouve et suivant les photos qu'il fait. Et en fait, il va rencontrer une jeune fille qui est une serveuse. Enfin, une serveuse. Une vendeuse et qui fait des tirages noir et blanc, et c'est là qu'il va tirer ses photos. Et il va avoir une histoire d'amour avec elle, mais qui va pas être tellement concluante, mais qui donne de belles pages quand même. Jusqu'à ce qu'ils se séparent tous les deux. Mais c'est un très très beau livre. Qui est donc publié par Vent d'Ouest. Et donc c'est Giacomo Bevilacqua, Manhattan Murmure. Très très beau. Je vous le conseille fortement. On est bientôt aux fêtes de Noël. Thank you. Voilà, vous avez entendu la musique de Ryuichi Sakamoto pour un film qui s'appelait Merry Christmas, Mr. Lawrence, avec en vedette David Bowie. Voilà, bonjour David, si tu nous écoutes, on est là. Tout ça pour vous amener un album qui s'appelle Samurai. Bon, c'est un peu réducteur, mais bon, ça s'appelle comme ça. Chez Soleil. Alors, samouraï, c'est l'histoire d'un samouraï, voilà. Mais dans le sens noble du terme. Parce que ce samouraï va rencontrer des gens un petit peu dérangeants, un petit peu séduisants aussi. Et il faut qu'il se défende en permanence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le tuer. D'autres, plutôt féminines, qui vont essayer de le séduire. Et il faut qu'il garde son intégrité en permanence. Intégrité de samouraï pour arriver à son but. Alors, c'est quoi son but ? Il a plein d'ennemis. Et on voit sur la couverture quelque chose qui ressemble à une sorte d'alien. C'est pas très beau. Et en fait, on s'apercevra à la fin, mais c'est un petit peu compliqué, que c'est une femme qui se cache sous ce déguisement, avec ce casque bizarre. Et en fait, elle se rend compte tout à la fin qu'elle est prête à le tuer parce qu'il est quasiment abattu. Oui, c'est le cas de le dire. Et elle s'aperçoit que c'est son frère parce qu'il a le même tatouage qu'elle, qui a été fait par leur père. Alors, c'est pas du tout, c'est pas un manga, hein. C'est français. Donc, c'est lecture à la française, ce qui est quand même plus agréable. Et donc, scénario Jean-François Di Giorgio et dessin Frédéric Genet. Et ce qui est intéressant dans les mises en page, c'est qu'elle est quand même très très mobile. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pages qui sont, comme dirait Anne, je te salue, comme un gaufrier, comme dans une BD traditionnelle. Et autrement, on a des pages qui sont complètement éclatées. Et avec des incrustations, avec une page de fond, par exemple, plus 5-6 vignettes qui sont posées dessus. Quelquefois, se chevauchant les unes les autres. Et le résultat est assez intéressant. En plus, bon, je pense que la majorité des couleurs ont été faites sur ordinateur. Merci Photoshop. Je trouve ça un tout petit peu dommage, mais autrement c'est très efficace dans la narration. Ça marche très bien. Alors c'est assez sanglant ou sanguin, c'est tout. Mais c'est assez violent. Oui. Mais très intéressant. Alors la fin, forcément, ça c'était le tome 1. Donc après, si vous voulez connaître la suite, c'est comme Star Wars, il faut retourner au cinéma. Et donc il y a 4 albums qui sont prévus, qui ne sont pas encore sortis. Donc Samurai, alors bizarrement, c'est vrai que c'est un Italien qui dessine, non, qui écrit le scénario, pardon. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le style manga, pas du tout. C'est très bande dessinée BD, belge. Voilà. Mais c'est agréable. La couverture, par contre, est complètement à part. C'est assez... Oui, c'est mise en couleur, mise en volume même. Voilà. Samurai, chez Soleil. Bon éditeur, mais qu'on voit pas assez souvent.
never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing.
Prince, tu nous manques. Purple Rain, pourquoi une pluie pourpre? Parce qu'on va retrouver un personnage. J'ai un peu triché en fait. J'ai pris une île mythique qui n'existe pas, qui s'appelle Gotham City. Gotham City n'existe pas du tout. Sauf qu'il y a Batman, donc on est obligé d'en parler. Et ce Batman est très particulier et extraordinaire parce qu'il est signé par un Européen. C'est la première fois que DC Comics, vous connaissez tous DC, Marvel, la guerre des gangs, tout ça, et DC Comics a fait appel à un dessinateur italien et qui a laissé sa trace dont on va en parler dans l'album. Alors, l'album s'appelle tout bêtement Batman, sous-titré The Dark Prince Charming 1 and 2. C'est-à-dire que ça s'appelle le Prince Charmant Noir. Et ce qui est une référence à Frank Miller quand il avait fait The Dark Knight, donc il y a quelques années déjà. Et là, le Prince Charming, à l'origine, on ne comprend pas pourquoi sur la couverture, c'est le Prince Charmant Noir. Ça paraît un petit peu antinomique. Et là, on va se rendre compte qu'on a une relecture de Batman à travers les yeux d'un Européen qui est complètement, j'allais dire, stupéfiante. Il y a un texte, justement, d'Enrico Marini, qui est son nom. Donc, il était en train de travailler, et puis il travaillait sur des projets italiens, chez lui. Et puis, on l'a appelé parce que un des éditeurs, enfin, un des pontes de DC Comics, avait vu ses dessins et il s'est dit, mais c'est pas possible. Tout s'est passé exactement comme ça, j'en ai fait le serment. On ne dit pas non à Batman. Pour lui, c'était un, grand dessinateur déjà, mais c'était une chance extraordinaire, surtout de passer de l'autre côté aux États-Unis, etc. Et ça a eu un succès phénoménal. D'où le fait qu'il y ait une suite. Alors, la personne qui l'a contacté, mais c'est intéressant quand même, c'est Jim Chadwick, éditeur de DC. Alors, comment, la question qu'on peut se poser, mais, comment est-ce qu'un éditeur de DC peut s'intéresser à un dessinateur italien qui a du succès chez lui, mais en fait qui n'est pas du tout connu aux États-Unis? Et là, on a un truc qui est absolument c'est extraordinaire. C'est une relecture de Batman. Encore une fois, parce qu'il y a eu plein d'artistes qui se sont penchés dessus. Et, alors, on retrouve forcément les personnages que tout le monde a vus, c'est-à-dire le Joker, qui est très présent là-dedans. Et donc, mais il est très très bien dessiné. Très très beau. Alors c'est pareil, là à mon avis c'est pas du Photoshop, hein. C'est vraiment, il y a une coloration qui est assez impressionnante. Pareil, planche éclatée, donc on a des choses qui, ça pète de tous les côtés, hein. On retrouve des personnages qu'on aime bien, il y a Catwoman qui est l'amoureuse cachée de Batman. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler et de se tourner autour, mais moi j'ai un poster de Batman qui embrasse Catwoman, mais ça c'est personnel. Et ce qui est le physique du Joker, il n'a pas trop changé, à part la mise en couleur qui est assez impressionnante. Ce qui est assez marrant, c'est que je vais faire hurler là. Batman, quand il est chez lui, qu'il est Bruce Wayne, il a un côté Latin lover. C'est vraiment un Italien, quoi. Comme il n'a pas du tout la même tête que comme on le voyait avant. Et c'est vrai qu'il est passé par pas mal de transformations à travers les dessinateurs. Mais... oui, il est plus costaud et il fait, j'allais dire encore une bêtise, ouais, mais je vais la dire, c'est pas grave. Il fait plutôt Rocco Siffredi qu'autre chose, quoi. Donc ça fait, ouais, ça fait un mal. Et c'est une histoire intéressante. On rencontre. D'abord, ce Batman-là, il est très grand, très costaud. Quand il est face à Gordon, l'inspecteur Gordon, Gordon, il a l'air tout petit. Par contre, Batman ressemble de plus en plus à une chauve-souris. C'est-à-dire qu'il a des ailes qui s'écartent, qui sont beaucoup plus dissimulantes. Et, ouais, c'est un gros costaud. Et ce qui est intéressant dans cet album, il y a des pages qui sont magnifiques. Là. Je ne peux pas vous les montrer à la radio, ça serait compliqué. Et oui, il y a Batman qui est sur un toit de Manhattan. Enfin, voilà, j'ai fait une faute. C'est de Gotham. Et les immeubles, c'est encore une fois, c'est magnifique la façon dont c'est dessiné, les perspectives, etc. C'est extraordinaire. Très, très beau. Et encore une fois, je pense que c'est pas fait. Les couleurs sont faites naturellement. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite, comme ça je pourrais vous l'affirmer. Mais c'est Marini qui a fait tout. Dessin et couleur. Voilà. Et ben donc c'est DC Comics, bien sûr, mais édité chez Dargo par Marini, comme le marin, j'en sais rien. Et ça s'appelle simplement Batman, The Dark Prince Charming, One of Two. Ça veut dire qu'il y aura un deuxième album. Et ça vaut le coup, vraiment le coup. Ben, on va se quitter comme ça. Et je remercie tous nos partenaires, surtout les médiathèques. Et je remercie Anne de ne pas avoir été là. Et puis, je remercie le technicien, Pauline, et puis tout le monde.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui, des... clip, crop, des, bang, des, bang,
et des...
zip, shibam.